dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Taisez-vous.
Moi, ma proposition, c'est de faire un tournoi d'échecs.
Échecs, on a fait comment, Abraham?
E-C-H-E.
C'est moi qui dis.
Moi-même.
Mon problème, c'est que toujours, Angelo, il n'arrête pas de faire blaaaah quand je travaille.
Bah, Angelo, toi, tu dis tout le temps pour te défendre. Oui, mais toi aussi. Oui, mais toi aussi. Oui, mais toi aussi. Mais
bah,
non.
C'est vrai, des fois, il fait.
La question, Angelo, c'est qu'est-ce que tu penses faire maintenant qu'il t'a signalé que ça le dérangeait? Tu comptes juste lui dire que lui, il le fait aussi, ou toi, tu penses que tu vas pouvoir faire attention aussi?
Faire attention, mais si lui aussi, des fois, il arrête à faire des bruits.
C'est bon, Mohamed?
Et Nathan.
T'as entendu?
À faire des
bruits. Voilà. Donc, il peut faire attention si toi aussi, tu fais un peu attention. Ça marche?
Leur port d'attache se trouve au pied des barres d'immeubles des quartiers nord de Marseille, dans ce qu'ils appellent la tanière bric-à-brac, ou espace éducatif bric-à-brac, disent les plus grands. Dans cette tanière, ils se plaisent à voguer au sein de leur magnifique rafio, où, 5 jours par semaine, s'active l'équipage composé de 22 enfants matelots et leurs parents, avec à la barre Erwan et Charles, 2 enseignants éducateurs. Ce rafio vogue depuis 5 années maintenant sur les océans de la pédagogie sociale. Il s'est lancé dans cette aventure à l'initiative de familles audacieuses et d'une poignée de militants pédagogiques, dont Erwan Redon. Ancien de l'éducation nationale, où pendant 15 ans, l'instit qu'il était a souqué ferme pour exercer sa passion de la pédagogie, se confrontant au vent contraire que lui opposait sa hiérarchie, celle qui porte en horreur ceux qui sortent du moule, eh bien Erwan a préféré quitter cette institution et mettre toute son énergie dans les espaces éducatifs. Le rafio vogue, avance lentement, mais avance. Dans ses voiles soufflent les vents venus de l'école Bonaventure, des vents soufflés aussi par les pédagogues Janusz Korczak, Paolo Freire, Sébastien Faure, Francisco Ferrer, etc. Les matelots, tels des abeilles dans une ruche, chahutent, questionnent, tâtonnent, manipulent, s'activent et vaquent à leurs occupations, dans un désordre voulu et pensé pour qu'un ordre de vie puisse s'exprimer au sein de leur république d'enfants. Dissonance va vous faire revivre une pédagogie qui se pratiquait il y a peu encore au sein de l'éducation nationale, à l'époque des classes uniques, à l'époque des petites structures, avant que concentration et évaluation ne pourrissent les apprentissages et le métier d'instit. Dans Dissonance, Erwan Redon, travailleur de l'éducation pétri de pédagogie sociale chère à la pensée libertaire de Célestin Freinet, raconte comment, avec son collègue Charles, ils consacrent leur temps aux enfants, aux familles et aux adultes qui aident au fonctionnement de l'association Bric-à-Brac, une association qui se bat pour que cette structure éducative et sociale existe et soit accessible aux plus démunis. Aujourd'hui, Dissonance vous invite à découvrir la tanière Bric-à-Brac.
C'est le câble qu'on avait posé.
On verra ça après. Je pense que t'as une demi-heure de boulot.
Alors, Erwan.
Ouais, il faut le remettre. Il est tout craint.
Erwan, je peux avoir le titre.
Tiens, Angelino.
Ben si.
Alors Erwan, c'est quoi l'histoire de Bric-à-Brac ?
L'histoire de Bric-à-Brac, c'est un départ de l'éducation nationale et c'est avec les parents avec qui on était en lutte dans l'éducation nationale, on se dit ben on va pas en rester là et pourquoi pas aller créer quelque chose quoi. Mais c'était pas prévu en fait au départ. C'est une histoire d'imprévu encore une fois cette histoire de Bric-à-Brac.
Mais c'est quelque chose que tu portais en toi depuis très longtemps quand même, non ?
D'aller créer quelque chose en dehors de l'éducation nationale, non ? Non. Autant on pouvait se référer, avoir des idées, des références, comme Bonaventure, comme d'autres écoles, comme le... mais on était rattaché à chaque fois à l'idée du service public. Alors Bonaventure n'était pas dans cette histoire-là, mais tout ce qui était le lycée expérimental de Saint-Nazaire, de Paris, le Lab, tout ça, c'est du service public. C'était toujours le caractère social qui nous intéressait. Et donc moi, j'avais pas de volonté de créer quelque chose parce que j'étais attaché à la sociale, au caractère public. Et donc c'était de se battre pour cette école-là. Maintenant, il y a un tas de références qu'on avait où on considérait qu'ils faisaient la même chose, la même idée politique, qu'elle soit dans un secteur associatif à côté, comme était l'école de Bonaventure sur la presqu'île d'Oléron, où ils faisaient du social aussi. Enfin, il y avait cette idée du service accessible comme le service public. Enfin, j'avais pas envie particulièrement d'aller créer quelque chose. Je suis parti de l'éducation nationale parce que j'en pouvais plus, quoi, parce que j'avais trop lutté frontalement, tout ça, et j'avais besoin de fuir, de rompre. Et puis après, bah, comme c'est un boulot que j'aime, comme j'avais envie de refaire des choses, et qu'il y avait des parents qui avaient envie d'essayer, des militants, quelques... Quand je dis « des », ça se compte sur les deux doigts de la main, hein, faut faire attention. Le « des », c'est pas des foules, quoi. Mais bah, on s'est dit bah, « pourquoi pas, réessayons ». Mais réessayons quelque chose où il faut que ça reste dans ce champ d'accessibilité de tous, quoi. C'est le fond de la pédagogie sociale, quoi.
Alors tu dis « j'avais envie de faire des choses ». C'est quoi ces choses que tu avais envie pas d'expérimenter, mais de faire vivre,
hein? Alors ce qu'on essayait de faire vivre déjà dans l'éducation nationale, parce que c'est en fait ce qu'on fait maintenant à Bric-à-Brac, c'est des choses que je faisais déjà. Donc c'était vraiment mettre en place la circulation des gamins pour qu'ils soient libres de circuler. Enfin, le mot de libre, on va y revenir de ce qu'on entend par libre. Mais dans les écoles maternelles, écoles élémentaires où je passais au centre-ville de Marseille, à chaque fois, j'ai toujours mis ça en place. C'est-à-dire que les gamins puissent circuler dans l'espace scolaire. Ça crée un tas de problèmes, alors que c'est un droit. C'est un droit, il y a une charte universelle des droits de l'enfant, il n'y a rien au niveau de la loi qui interdise à un enfant de circuler, mais par contre il y a une peur des enseignants et de la hiérarchie qui met la pression sur les enseignants en disant non, vous n'avez pas le droit de les laisser circuler, vous devez les avoir à l'œil en permanence, alors qu'il n'y a aucun texte qui oblige à ça.
Ça, c'est notre jardin.
Ah, chez Momo Bio. Oh,
et là-bas, il y a les poules.
Tu fais tout ça.
Mais vous aidez Momo alors, c'est ça?
Ben oui, c'est quasiment nous qui faisons tout le boulot.
Et regardez les poules, ils sont là, juste à côté.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre jardin, à part les fèves, hein?
Il y a, ben, il y a derrière toi.
Mâche.
Il y a aussi des petits pois.
Ah, les petits pois.
Et c'est là.
Allez, viens, Sacha, il nous appelle, Charles.
Donc ça, c'était un des éléments qu'on mettait en place. Les autres éléments, bah, c'est l'histoire des fichiers d'autonomie qui avaient été lancés par Célestin Freinet dans ses classes. Où là, bah, ça donne un parcours qui permet d'individualiser les parcours. Et en même temps, tout en individualisant les parcours, pour contrebalancer quelque chose qui serait que de l'individuel, qui développerait de l'individualisme, on développe toute une vie collective pour réellement obliger chaque individu à prendre en compte le phénomène collectif du commun, se mettre ensemble à créer quelque chose. Et si ça ne crée pas quelque chose comme une œuvre, comme une création d'un bouquin ou autre, en tout cas, ça crée une vie ensemble. Et ce n'est pas le vivre ensemble mis dans les programmes, c'est vraiment, on va nettoyer ensemble. Ça, je le faisais déjà dans les classes, je leur demandais de nettoyer. « Ah oui, mais il y a quelqu'un qui fait le ménage après. » Et alors, nous, on a cradossé, on va faire au moins notre part de nettoyage. Donc, on était déjà dans des logiques où ce n'était pas que l'apprentissage disciplinaire, scolaire, et c'était un apprentissage global, d'une globalité du vivre, et que quand on était en train de nettoyer, quand on était en train de faire du pain, quand on était en train de faire de je ne sais quelle autre activité, on pouvait être aussi dans les apprentissages disciplinaires.
Ilan, Loubna et Mohamed, qu'on a fait le pain et on est allé chercher les œufs et tout.
Et comment tu fais le pain? Tu connais la recette par cœur?
Oui, on connaît tous la recette ici. Et pour les nouveaux, les plus anciens, ils leur apprennent. C'est Juan qui nous apprend à faire le pain et après, quand on sait le faire, on le fait tout seul.
Et des fois, il arrive que le pain ne soit pas bon?
Oui. Quand il y a des gens qui oublient de mettre du sel ou qui en mettent trop, ouais.
Il y a un bol
Et à l'intérieur du bol, on va devoir mettre de la farine, plein d'aliments pour faire le pain.
D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire?
C'est combien de farine?
C'est 600. Pour faire plus facile, c'est 600. Sinon, vous faites deux pains de 300.
C'est plus simple.
Ouais, on va faire 600 grammes de farine.
Et là, tu pèses avec une balance alors.
C'est comment 600? Ah oui, c'est un 6 en 0 et un 0.
Voilà, on a fini.
Ah, il faut faire un trou.
Bon, on n'est pas obligé, mais en tout cas, pas chaud comme ça. Pour mettre après du sel, de l'eau bouillante et de la levure.
C'est du sel, ça?
Après, il faut chauffer de l'eau.
Non, il faut pas. Il faut couper la moitié.
Que ça, il faut que quelqu'un fasse bouillir l'eau.
L'eau chaude.
L'eau bouillante, c'est de l'eau chaude. En gros, faut faire tout un verre, tu le verres. Et si t'en as besoin, après tu touilles. Et si t'en as encore besoin, c'est pas trop. Que c'est encore un peu épais avec la farine, bah faut la remettre. Après tu pétris. En fait, tu prends et tu mélanges. Tu mélanges bien et quand il n'y a plus de crumeaux, ben tu mélanges avec les deux. Parce qu'on partage le pain, on le colle et après
on essayait d'éviter de trop cloisonner la discipline aussi, pour avoir des choses qui s'entremêlent, de mélanger les disciplines, qu'on est vraiment à... on était en art plastique, et ben on pouvait faire des maths. Hein. On était en maths, on pouvait faire de l'art plastique. Pour donner un exemple comme ça, quoi. Par exemple là, quand on dit on fait pas d'histoire, on vient ici à Bric-à-Brac par exemple, et il n'y a pas de moment où on dit qu'on fait de l'histoire. Or, on dit on est dans le moment de la lecture, et en fait on fait des lectures de sciences, des lectures d'histoire, et dans cette lecture, en fait, on est en train d'étudier l'histoire, on est en train d'étudier les sciences et les sciences expérimentales. Ben, on les fait à d'autres moments. À ce moment-là, on vient manipuler, on vient faire d'autres choses. Et l'histoire, bah, autant que faire se peut, si on peut aller sur les lieux, on se déplace. Et puis autrement, bah, on fait avec nos réalités de terrain aussi, avec l'argent qu'on a ou pas. Il y a un tas de choses qui existaient que je faisais exactement, enfin que je faisais dans l'éducation nationale, et j'ai pas changé l'esprit. Ça libère certains aspects. Il y a d'autres contraintes qui arrivent quand on sort d'un service public d'État. Les contraintes étaient plus idéologiques en fait. Parce que dès qu'on essaie de développer des choses en fonction des lieux où on est, on a des inspecteurs qui sont plus ou moins idéologisés aussi et qui veulent mettre un peu plus le holà sur certaines choses. Les autres aspects qu'on avait, qu'on développait et qu'on continue à développer là, c'était de la responsabilisation des enfants. C'est de dire « vous êtes responsable de ce qui se passe ». Ah oui, mais là, j'ai pas eu le temps. Là, j'ai pas. Ouais, ok, mais on avait donné un temps pour faire ça. Tu avais ce temps-là pour le faire. Or, t'as passé ton temps à griffonner, t'as passé ton temps à la tête en l'air, donc tu es responsable de ça. Ça change complètement l'attitude de passivité qu'ils peuvent avoir, où on voit des enfants qui arrivent, qui s'assoient sur une chaise et qui attendent qu'on leur donne la béquille. Et là, on disait, ben non, on va pas vous donner la béquille. Vous avez votre plan de travail. Vous connaissez le plan de la journée, voilà ce qui va se passer de telle heure à telle heure, etc. Donc c'est à vous d'y aller. Quoi. Et il y a des minots, je me souviens comme ça, avec des minots de CM1, des minots qui tout de suite pigent, disent « waouh, ça c'est la liberté ». Ils ont pigé les contraintes de la liberté, mais crac, ils rentrent dedans, ils arrivaient le matin et allez, ils y allaient, ils fonçaient dans les boulots. Et d'autres, il a fallu des semaines avant de les changer par rapport à une espèce de normalisation de petits robots dans lesquels ils étaient tombés.
Et c'est quoi que tu préfères dans le fonctionnement des Bric-à-Brac alors?
Ben, tout.
Tout?
J'aime bien aussi qu'on doit avoir nos responsabilités de notre travail. Parce que on sait qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans la journée. Et il faut savoir quand on va le faire, mais il faut qu'on ait tout fait dans la journée. Du coup, il faut savoir quand on doit le faire, et enfin, c'est trop bien. Quand t'as tout fait, tu peux organiser des spectacles comme là. Je vais organiser demain, là on s'est entraîné, je vais organiser un concours de chant.
Il y a de slogans qu'on avait avec les copains, notamment du CH, là, du collectif anti-hiérarchie, où on avait des t-shirts et des noms au programme, nos enfants robots. Et c'est pas tant le programme en soi qui me gêne, c'est le fait qu'on soit dans une logique de programmation pour le collectif en entier. C'est-à-dire que tout le collectif est censé faire la même progression. Or, pour chaque individu, quel que soit le groupe que l'on prenne, qu'il soit un groupe d'adultes ou un groupe d'enfants, très très rapidement, c'est comme sur un départ de randonnée, vous mettez 10 bonhommes qui partent au même moment sur le sentier, vous revenez une demi-heure plus tard, ils sont tous à des endroits différents, ils ne seront pas tous restés ensemble. Si on leur laisse la possibilité d'aller chacun à leur rythme, ils ne vont pas... Alors, si après, pour des questions de sécurité, on dit tous « Ok, on se met au rythme du plus lent, et là, on reste ensemble », mais si chacun doit pouvoir avancer à son rythme, eh ben, ils ont des parcours très différents. Donc, ça ne fonctionnait pas, le faire une leçon tous ensemble tout le temps, ça ne marchait pas. Là, quand on le fait maintenant, l'intérêt de Bric-à-Brac, c'est que j'ai enfin réussi à avoir quelque chose qui est lors du multi-âge, que je n'arrivais pas à avoir dans la classe, dans les classes de l'école d'État. Je dis souvent l'école d'État parce que je considère que nous, on est un service public, mais du secteur hors État. Et d'ailleurs, on est école hors contrat, on n'a pas de contrat avec l'État.
On a 3 demi-heures le matin. Une demi-heure pour faire de l'écriture, une demi-heure pour faire des maths et une autre demi-heure pour faire de la lecture, de l'histoire, des fiches Freinet.
À corriger mon texte, à faire mes maths,
à faire ma lecture d'histoire et des fiches Freinet.
Je dois corriger mon texte. Je dois faire mes mots, je dois faire des maths.
Tu corriges ton texte.
Ouais.
Est-ce que tu peux le lire, ton texte?
Ok. Il était une fois un chat vert qui vivait dans un château tout vert. Le chat vert mangeait que des choses vertes. Des pommes vertes, des petits pois, bon bref. Mais en mangeant que des choses vertes, il devenait malade. Alors il appela un médecin. Le médecin donna des médicaments au chat et le chat se soigna. Fin.
Alors ce texte, une fois que tu l'auras corrigé, qu'est-ce qu'il va devenir?
Eh ben, il va aller dans le journal de l'école, voilà. Et après on va le vendre et voilà.
D'accord, mais ce journal, il s'appelle comment?
La tanière Bric-à-Brac.
Et est-ce qu'après tu feras un dessin pour l'illustrer?
Non, ça c'est le comité de rédaction, celui qui s'occupe de mettre en page le journal.
Et donc toi aujourd'hui, tu es dans les 3 demi-heures, c'est ça?
Bah là, je finis de corriger mon texte, après je fais mes mots, et après, s'il me reste encore dans mon temps dans ma première demi-heure, et ben je refais de la grammaire conjugaison.
Tiens, c'est celle-là en faisant comme je te dis.
Ouais. J'ai cherché avant de manger, parce que ici je ne savais pas comment. Mais en fait, le chat vert mange.
Le chat vert mange.
Oui, manger.
Manger hier. Il était une fois un chat mangeait hier.
Aïté.
C'est quel temps?
Imparfait, je crois.
Il mangeait.
Les espaces éducatifs Bric-à-Brac avec Erwan Redon.
Erwan, c'est une école aussi qui a 5 ans d'existence. Alors tu dis pas école, tu dis centre éducatif. Et qui est tournée vers le monde populaire. C'est pas une école où il faut payer 300 euros ou 1000 euros le mois, etc. Enfin, c'est un choix.
C'était le choix. Ouais, ce que je disais un petit peu là, c'était de dire depuis le début... on cherche à défendre un service public. Et donc l'accessibilité, dans l'école, elle n'est pas gratuite dans l'école d'État. Moi, je suis toujours battu contre cette notion-là qui laisse croire aux gens qu'elle est gratuite. On ne la repaye pas quand on y accède, mais l'ensemble d'une population a payé cette école à travers ses impôts. Donc qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on soit usager de l'école publique ou pas, tout le monde paye à travers ses impôts et ça redistribue et ça permet une accessibilité. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens, eh ben ils peuvent venir à l'école quand même, même s'ils ne payent pas d'impôts et autres, d'autres ont payé pour eux. Et si je ne veux pas mettre mes gamins dans l'école publique, j'ai quand même payé pour cette école-là. C'est cette grande idée du service public. Nous, c'était l'idée de repermettre cette chose-là avec les difficultés d'un secteur privé où ben, il faut trouver l'argent pour payer les travailleurs, quoi. Donc les familles ici elles payent 50 euros par mois, et c'est déjà trop pour certaines familles. Il y a des familles qu'on n'arrive pas à avoir avec cette somme-là. Les familles qui sont dans les hôtels sociaux et autres, elles n'ont pas les 50 euros à mettre comme ça. Malgré tout, 50 euros, ça passe. On a des familles qui sont à RSA, qui sont des sous tutelle de certaines associations et autres. Donc on arrive à avoir des gens qui n'ont vraiment pas de moyens, ou pas beaucoup, qui réussissent à accéder. Ça, c'est vraiment important pour nous. En même temps, on n'arrive pas à faire la gratuité complète, parce que la réalité économique est ce qu'elle est, et ça, on tient déjà pas en faisant payer un petit peu. Si vraiment on voulait avoir, pour parler économiquement, il faudrait qu'ils payent 200 euros, quoi. C'est ce que font la plupart des écoles qui ne se posent pas la question de l'accessibilité ou pas, et c'est minimum 200 euros sur les créations, quoi. Ça, c'est un des aspects, l'aspect économique comme moyen de sélection sociale. L'autre aspect, c'était aussi de dire, on n'a pas envie de contraindre, de dire, pour venir ici, bah, vous serez obligé de faire le ménage ici, vous aurez des temps d'obligation ici. Parce qu'en fait, c'est un moyen aussi de sélectionner. Parce que qui est-ce qui est disponible, qui est-ce qui va pouvoir venir ou pas, dans un sens comme dans l'autre. Quelqu'un qui bosse déjà ses 45 heures par semaine, tout ça, il a peu de disponibilité aussi pour venir. Mais quelqu'un qui est au chômage en train de chercher du boulot ou qui a des problèmes sociaux, hauts, tout ça, il n'est pas non plus très disponible forcément pour accéder. Donc on est aussi dans quelque chose où on essaye de travailler sur une espèce de conscientisation et de travail de construction d'un collectif, et non pas de le prévoir au préalable, de dire ça va être collectif. Moi j'y crois pas, ça fait équipe, comme on disait dans l'éducation nationale, ah c'est une équipe d'enseignants, je dis non. Que dalle, ça ne marche pas comme ça. Une équipe, ça se construit, donc ça se choisit. Pour moi, l'équipe, c'est la troupe de théâtre. C'est un équipage. Bon, c'est mes références, moi, de bateau, mais la troupe de théâtre, ça parle bien aussi. Donc il y a ça qui est à construire.
Salut Ambroise, tu es parent d'élève.
Oui.
Tu as deux enfants ici à l'école Bric-à-Brac. Qu'est-ce que ça apporte, être parent de l'enfant scolarisé à Bric-à-Brac?
Bah, ça apporte du bonheur, déjà. Ça veut dire aussi que la porte de l'école, elle n'est pas fermée. Parce que là aussi, avant, il y avait la porte de l'école, les parents qui étaient sur le trottoir, et puis en fait, rentrer dans l'école, c'était quelque chose de difficile. Et donc là, déjà, de savoir que la porte est ouverte, à tout moment, on peut venir, on peut intervenir, on peut faire des choses, si on veut, tout en respectant aussi le cadre de l'espace. Ça donne de la confiance, ça permet de l'implication, mais chacun à sa mesure.
Et sur l'aspect de la sélection, on reste malgré tout bloqué. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas... l'idée, ce serait de refaire l'école du quartier, comme il y avait l'école du village. Dans des grosses villes comme Marseille, chaque quartier est un bout de village, quoi. C'est la même dimension. Les bars d'immeubles qu'il y a juste à côté de chez nous, il y a 2000 habitants, ça fait plus que le petit village du coin, quoi. Donc, on n'y arrive pas pour l'instant. Je pense qu'il faudra sans doute du temps pour entrer en contact et montrer que on n'est pas des pestiférés, on ne fait pas des choses complètement folles. Mais rien que le fait que ce soit une école en dehors de l'État, ça fait peur à certaines familles, vu leur situation sociale, vu leur situation de détention de papier, de stabilisation ou pas, etc. Il y a une inquiétude. Est-ce qu'on va toucher la CAF encore? Est-ce qu'on va pas nous emmerder sur nos renouvellements de papier, etc. Donc ça bloque pour certaines familles qui viendraient volontiers sur la partie pédagogique. Et puis la partie pédagogique fait peur aussi. Peut inquiéter aussi certaines familles qui veulent quelque chose qui soit moins bric-à-brac, qui donne un aspect beaucoup plus carré, qui donne un aspect beaucoup plus organisé, alors que nous, c'est extrêmement organisé. On est vraiment dans les conceptions anarchistes, au sens où je l'entends, d'aller et venu entre désordre et ordre. On crée un ordre et une organisation qui est assez terrible. On est hyper exigeant, rigoureux avec les enfants et pénible sur certaines choses comme ça, pour permettre qu'un désordre de vie où chacun doit pouvoir l'impression d'une ruche, Quand on regarde une ruche, le va-et-vient, on a l'impression que c'est le bordel. En fait, c'est hyper organisé, une ruche. Chacun sait ce qu'il a à faire et se place, etc. Donc on est dans ce mouvement-là, mais pour certaines personnes, bah c'est trop, ça fait un peu peur, quoi. Donc il y a, je pense qu'on mettra du temps avant d'aller trouver les personnes dans le quartier, à proximité, qui viennent. Donc là, bah, c'est des gens qui sont en recherche, en fait, qui viennent.
Et alors Patrick, pourquoi vous avez fait le choix de l'école bric-à-brac?
Tu veux, c'est aussi c'est l'école du possible, c'est-à-dire que le Erwan, puisque c'est quand même lui qui initie cette façon de voir, de faire et de travailler avec les enfants. Erwan, lui, va se saisir de toutes les propositions des enfants pour pouvoir construire. Et pouvoir essayer de revoir le monde, de voir aussi comment ils peuvent s'impliquer, comment dans la construction, etc. Et moi, ça, je trouve que quand même, c'est particulier. C'est ce que nous on recherche aussi. C'est aussi l'évolution des enfants quand même, c'est au niveau de la confiance. Ils ont ces enfants quand même qui ont confiance en eux, et qui prennent des initiatives. Ouais. C'est une école. Ce que j'aime bien, c'est qu'une école où il y a tout à faire, mais également on est confronté à la réalité, une réalité économique, une réalité aussi des règles, parce que qu'est-ce qu'on met derrière la liberté, hein? Ça, j'aime bien. Et puis aussi, le fait qu'on ne peut pas faire une dichotomie. Par exemple, Erol est à l'école, dans une école alternative. Mais c'est tout ce que ça amène aussi comme réflexion au sein de la famille. Tu vois, nous, on a une fille qui est dans une école dite traditionnelle. Et elle a des devoirs le soir. Et donc, Erol en disant, mais pourquoi tu... Elle, se demandant pourquoi on me fait faire des devoirs. Et lui également en disant, mais voilà, sans faire des devoirs, j'arrive à lire, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi une réflexion. Et c'est aussi se dire aussi que peut-être qu'on peut aussi prendre des chemins de traverse et qui vont nous amener au même résultat. Sans pour cela brider les gens. Et là, on peut aussi voir aussi les enfants grandir aussi à leur rythme et avec leur spécificité. Ce qui me touche aussi, c'est que ce n'est pas une école pour riches. Et ça, pour moi, c'est une belle école, en tout cas.
Ouais, ouais. Et puis, moi, je les ai vus fonctionner. C'est des enfants qui seront les adultes de demain, donc qui apprennent à discuter, à écouter, à faire ensemble, à construire ensemble. Et ça, c'est la société de demain que à cette école, vous construisez, parents et enseignants, quoi.
Ce qui est le plus important, c'est comment l'enfant va se construire. Et l'enfant va se construire aussi par, j'allais dire, identification, mais aussi sur un modèle. Et c'est le modèle aussi au niveau du discours, mais aussi un modèle au niveau de l'être. Comment je suis, moi? Comment je me tiens debout? Et pour moi, ça, c'est essentiel.
Vous regardez dans l'atelier aussi, s'il faut ranger.
Et moi, je peux aller dehors.
Dans
l'eau de la veille.
Les personnes qu'on a, soit c'est des familles qui ont des gamins qui sont en rupture avec le système d'État, qui voulaient, la plupart des familles ici souhaitaient aller dans le service public d'État pour des questions d'idées, de répartition, de mixité sociale, etc. Mais à un moment donné, il y a un gamin qui va pas bien pour X raisons, il y a plein de raisons, et l'institution dit, on trouve pas. Ou alors, la solution qui est trouvée, c'est, il y a un handicap. Et on rentre dans tout le mouvement du handicap. Ah, il est dyslexique, ah, il est dyspraxique, ah, il est ceci, il est cela. Ok, mais ça ne règle pas pour autant le gamin, il va toujours pas mieux. Là, c'est des gens qui cherchent d'autres solutions. Donc, ils viennent frapper avec Abrac pour ça. Des gens qui veulent expérimenter un autre projet politique. Et ça frappe à la porte. Et ça peut être aussi des adultes qui, eux, ne vont pas très bien. Donc, c'est les types de familles qu'on peut recueillir. Et y a des familles qui ont un peu de fric, et puis il y a des familles qui n'ont vraiment pas de rond qui leur permet de venir. Si on augmentait un peu, on les perdrait. Ouais, ça, c'est très, très clair, quoi. On ne les aurait pas avec nous.
La nuit, comme une chandelle sans flamme, comme les 12 coups du sommeil, un corps dépourvu d'âme, les mille et une étoiles. La nuit, comme le pays de l'oubli, la nuit, comme des nuages d'encre, comme la Pologne en pleurs, comme la mort d'un taureau, comme un mineur disparu, comme la mariée en noir. Douceur du loup, comme un ours en peluche, comme un puits de chaleur, comme la barbe du Père Noël, la nuit. saxophone, comme la naissance d'un rêve, comme Pierrot sur la lune, comme l'amour de Colombine, comme la fraîcheur de l'aube.
Les espaces éducatifs bric-à-brac avec Erwan Redon.
Est-ce qu'on peut dire que dans bric-à-brac, il y a un mix entre
pédagogie et social ? Depuis 2006, avec mes premiers emmerdes avec l'éducation nationale, les ennuis ont commencé parce qu'on travaillait trop avec les familles. Et c'est impressionnant, en fait, rétrospectivement, de remémorer ça. Ça a coincé parce qu'on avait développé, j'avais développé avec les familles, puis un ou deux instituts qui s'y étaient mis comme ça, une proximité avec l'association, mais pas que avec l'association dite des parents. C'était une association un peu particulière, avec des gens qui jouaient pas juste pour une présence parce qu'il fallait surveiller sa progéniture dans l'école. Il y avait quelque chose d'une symbiose, d'une compréhension, où ça se nourrissait et il rentrait un peu plus dans l'école tout en disant attention, c'est pas l'école des parents, ça on le dit souvent à Bric-à-Brac, c'est pas l'école des parents, c'est l'école des enfants et des travailleurs qui y sont tous les jours et de ceux qui veulent bien se mettre dans l'ensemble des règles de la vie de ce milieu-là. Donc vous venez pas en tant que parent, vous venez en tant qu'individu qui participe à une vie là-dedans, et si vous venez en tant aussi, parce qu'on sait qu'on ne change pas nos casquettes comme ça, le parent est là aussi en disant « je laisse tous mes projets de sphère privée, tous mes attentes de ma sphère privée, je les fous à la porte, et là, il faut que je me mette dans les attentes de la sphère collective, qui a d'autres règles, qui ne sont pas forcément les miennes, qui a d'autres projets éducatifs, qui ne sont pas forcément les miens, où je peux entendre des choses qui peuvent me choquer, j'aurais pas fait comme ça à la maison, j'aurais pas fait comme si... Enfin, » voilà. Et ça, on réussissait dans l'école publique à développer cette chose-là, mais ça fait trop d'intrusions, ça gêne d'autres instituts, ça enlève du pouvoir à une directrice ou un directeur qu'on voudrait plus, enfin ça... Et plouf, tout le côté social qui permettait de dire à des familles, bah, « Allez, redressez-vous aussi par le fait que vous devenez responsable aussi. » On vous accompagne dans ce qui se passe d'activités et autres. Et en même temps, chacun pouvait aussi garder sa place. Et chacun apprenait à changer de rôle. C'est-à-dire que petit à petit, les familles, on les faisait rentrer et venir. Comme ça. Il y a plein d'écoles où ça peut se faire. Mais il y a des endroits où ça coince parce que l'État veut bloquer cette chose-là. Et les endroits où ça coince pas, souvent, c'est planqué. Hein. C'est qu'il y a, ça se dit pas, ça, on n'en parle pas, et donc on le revendique pas, et si on le revendique pas, ça se diffuse pas. Et ça, c'était un des éléments d'écueil qui a fait que ça a explosé aussi, c'est qu'à force de revendiquer, ça devient gênant, parce qu'on dit « Ah oui, tiens, c'est possible, ah oui, tiens, c'est possible, ah oui, tiens, c'est possible », et là, l'État dit « Oula, non, stop, faut mettre un chapeau, quoi ».
Allez, viens, Sacha, il nous appelle, Charles.
Tu m'aimes ? Pas beaucoup. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est à cause de mes cheveux ? Non, à cause de mes pieds ? Non, à cause de mes yeux ? Non, pas pour ça. Tu es blanc ? Oui, et toi aussi, tu es blanche ? Oui, mon papa est blanc, ma maman est blanche. J'ai un chat blanc dans mon cahier, les pages sont blanches, et moi aussi, je suis blanche. J'aimerais que ce soit différent. Faudrait que je pense peut-être. Tiens, j'ai une idée, tu voudrais bien me peindre ? Elle sort un pinceau de son sac et lui met à lui peindre le visage. Aïe, tu m'en as mis dans les yeux. Ferme les yeux. Tu me chatouilles, j'ai bientôt fini. Attends, faut peindre les mains aussi. Et tout le corps. Une prochaine fois, si tu veux. Alors tu m'aimes comme ça ? Pas vraiment, mais pourquoi ? Je crois que je préférerais comme tu étais avant. Comme je suis d'habitude, non, comme tu étais avant.
Donc le caractère social, il a été là tout le temps. Là, et on continue à le faire, et on le développe encore un peu plus, maintenant ici, au-delà des familles. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pour ça qu'on l'appelle espace éducatif. On aurait dû rajouter social, mais moi, ça me semble tellement évident que c'est rentré dans l'éducatif, la part sociale. Et on n'a pas dit espace pédagogique, on a dit espace éducatif. On sépare bien j'ai appris aussi au fil du temps à bien séparer ce que c'est la notion de pédagogie, d'éducation, d'accession sociale, parce que on nous forme dans une pensée d'instructeur. On est encore sur le ministère de l'instruction de Condorcet, quoi. tout en disant que c'est un ministère de l'éducation. Si on fait de l'éducation, on est obligé de prendre la part sociale. Parce que dans l'éducation, il y a un parti pris politique de dire qu'est-ce qu'on va organiser et comment on va élever au sens de étirer, de faire grandir, de grandir, se grandir les enfants. Or, dans un ministère de l'éducation où on dit aux enseignants, non, vous n'allez faire que des parties techniques, pédagogiques. Vous allez faire de la pédagogie, de la technique pour apprendre. Mais vous mettez de côté l'éducation. Et c'est souvent ce qu'on entend avec des enseignants aussi, qui les instituts, on est bien placé pour ça, parce qu'on est vraiment au contact de petits ans, de jeunes enfants, donc on est encore plus proche de ce rapport à l'éducation, et dire, ah, il est mal élevé, lui, puis les parents, qu'est-ce qu'ils foutent, quoi, c'est à eux de les éduquer. Je dis, putain, ça colle pas, ça fonctionne pas, ça marche pas comme ça. Donc cette école qui veut se refermer sur elle-même et à faire que de l'instruction, elle oublie qu'en fait, c'est pour eux, les choses sont reliées, et qu'il y a un travail d'apprentissage à comment on peut vivre les uns avec les autres sur des lieux qui nous appartiennent pas complètement, ni aux uns, ni aux autres. Mais avec une reconnaissance d'un professionnalisme, ce qui souvent, moi je dis, je suis pas un spécialiste de l'apprentissage. N'importe quel gamin actuellement à la maison avec ses parents, avec des parents qui savent pas lire, Mino, il peut commencer à trouver des choses, aller dans des bibliothèques, trouver des endroits où on peut l'accompagner. Avec des parents qui savent lire, mais avec Internet, le nombre de bouquins d'édition, des choses comme ça, c'est énorme. Nous, ce qu'on sait en plus faire, c'est qu'on sait gérer un collectif. On sait gérer 20 gamins, on sait organiser, on sait structurer, on sait coordonner, et on sait aussi coordonner un collectif d'adultes qui peut venir, et on leur apprend aussi aux familles, dire attends, ça, vous pouvez pas le faire. Et c'est les minots eux-mêmes qui rappellent aux familles ici, ils disent, hey, t'as laissé traîner ta tasse de café, et t'es rentré dans la pièce avec tes godasses, t'avais pas le droit de rentrer dans la pièce avec tes godasses, parce que c'est la règle ici, on fait pas comme ça, etc. Et donc il y a un réapprentissage d'un lieu où on dit, ça c'est notre maison commune.
Comment ça va?
Tiens, bonjour, pas mal, et toi?
Pas de boulot, je bricole.
Moi, je suis toujours à l'école.
Avec vous, c'était le bon temps?
Oui, peut-être, évidemment.
Tout le monde descend de l'autobus terminus. Allez, monsieur, je m'en vais chez moi.
Peut-être à une prochaine fois. Un signe de main et disparaît le gamin.
Merci,
les espaces éducatifs bric-à-brac avec Erwan Redon.
Et donc, du coup, pour en revenir à ce côté social, comment ça se concrétise réellement pour les enfants? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour travailler? Enfin, tu vois, pour que ce soit vraiment plus visuel, quoi, plus concret dans les explications pour les enfants. Tu vois, on a pu observer des temps d'échanges, de réunions, d'assemblées. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi?
Le fait que dans le travail, Il n'y ait pas de classement, il n'y ait pas d'évaluation collective qui dise où est-ce que j'en suis. Je suis encore le meilleur cette fois-ci. Ça, c'est une manière de sélectionner, de montrer la classe sociale. De dire, bah oui, c'est tout le temps le même. Ah bah tiens, oui, c'est le fils du docteur. Ah bah tiens, c'est le fils de l'institut, ou etc. Ça, il n'y a plus ça ici. Le fait de travailler sur le social, c'est pouvoir dire, mais toi, tu viens de tel milieu. T'as ce langage-là, t'as ce niveau de culture, et elle est aussi importante que le niveau de culture, le langage qu'il a à côté. Quand il y a un minot qui nous renvoie des insultes, du langage de la rue, des trucs entre nous, on dit « Waouh, génial, vous avez entendu ? Prenez ça aussi. » Par contre, entre nous, là, on n'en a pas besoin de ce langage. T'as plus de ta mère, ça ne nous intéresse pas ici, parce que entre nous, entre compagnons de voyage, là, on n'a pas une nécessité de rentrer dans un rapport de force tel pour faire valoir notre territoire d'existence. Et ça, pour nous, c'était le travail social qu'on fait. De dire, chacun a ses parcours, a des milieux différents, mais ils auront autant de valeur. Le problème social, il est celui-là, vis-à-vis des gamins. C'est pour ça que dans les réunions, dans les assemblées, souvent on dit, mais il n'y a pas de vilain petit canard ici. Il n'y a pas non plus la gentille petite fille, le gentil petit garçon qui apporte le thé à la maîtresse, ou le café au maître, machin, etc. L'autre aspect, c'est que quel que soit le minot, d'où qu'il vienne, qu'il ait une bonne à la maison, une femme de ménage, un homme de ménage, ou qu'il fasse jamais rien à la maison, eh ben ici, il doit aller faire le pain pour tout le monde. Il doit aller faire la vaisselle pour tout le monde. Il doit faire le service pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a toujours un groupe de service qui vient donner aux autres leur plat, parce que chacun amène son plat. On n'a pas de cantine. On aimerait bien, mais ça demande d'autres infrastructures et puis d'autres personnels en plus. Et on fait tous le ménage le soir. Donc passer la serpillière, passer l'aspirateur, etc. Et il y a des minots, on voit très bien, qui nous disent « Mais non, j'ai pas envie. C'est pas à moi de faire ça. » Et ça, c'est un énorme travail social, oui, de réapprentissage de bah, « qu'est-ce qu'on fait hein, ici, entre nous, et que quel que soit où que tu sois, bah, tu iras nettoyer les chiottes quand même. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. »
Bah là, moi, je suis en train de faire le service. Du coup, on doit mettre les couverts sur la table. On doit aussi, donner les plats. On doit aussi chauffer les plats des enfants. Et ensuite, eh ben, on doit faire les poules. On doit faire le pain. Et du coup, voilà.
Parce qu'il y a les gens de service. Ils ont réchauffé notre plat et on mange.
Vous mangez dehors, vous mangez...
Dehors quand il fait beau et quand il pleut ou qu'il fait froid, on mange à l'intérieur.
Et toi, pourquoi tu manges rien?
Parce que le service ne m'a pas encore amené mon plat.
Et où il est ton plat? Ils peuvent le trouver où?
Dans le frigo. Dans le frigo. Et après, il faut chauffer les plats tout le monde. Il y a un frigo avec écrit chaud et un frigo avec écrit froid. Froid, où on met nos desserts ou ce qu'on veut manger froid. Et où il y a écrit chaud, c'est ce que le service doit réchauffer.
Donc là, qu'est-ce que tu fais?
Là, moi, j'amène un plat à quelqu'un.
Tu mets sur un et ça marche. Et lui t'appuie, ça marche.
Tu remets sur le 1.
Oui, attends, c'était quoi?
D'accord. Et tu te services juste un midi ou toute la semaine?
Non, en fait, tous les mardis, on met de service. D'accord. Le lundi, il y en a d'autres.
Et vous, quand est-ce que vous mangez?
Nous, après tous les plats chauffés, là.
Et c'est vous qui faites la vaisselle aussi?
Oui. Ouais. Et le pain et les poules.
Je suis en train de rincer, là. Les couvercles que Carlos est en train de laver. Ensuite, on essuie et ensuite on range. Et là, on va sécher tous les deux et ensuite on va ranger tous les deux.
La brigade, tous les mardis.
Les poules, le pain et tout.
Et donc, ce pain qui est là, que je vois là, c'est vous qui l'avez fait, ce pain là?
Non, celui-là, c'est.
Celui-là de hier.
Et vous allez le faire quand, le pain alors?
Nous, c'est pas nous qui. En fait, nous, on se charge
de la vaisselle.
De la vaisselle et des poules. Et il y a un autre groupe qui fait le pain.
Pour synthétiser, le rapport aux apprentissages, les disciplines, il n'y a pas de stigmatisation de milieu. Le rapport au comportement. Ah, c'est le gamin qui est chiant encore, c'est encore le même qui embête. Ok, sauf qu'il y a une histoire et il y a de la valorisation quand même chez celui-là. Et celui qui dit jamais trop rien et qui ne la ramène pas, il peut être très très chiant, mais très très discrètement à d'autres moments. Il peut être particulièrement affect aussi dans son comportement de mépris auprès des autres, mais il ne se fait pas gauler lui. Et l'autre aspect, c'est sur l'histoire des tâches de vie. Ça, c'est du côté des mômes. Du côté des familles, ça travaille un petit peu de la même manière. Parce qu'on retrouve aussi des comportements aussi un peu de familles qui considèrent que c'est pas à elles d'aller nettoyer leur tasse de café. Même à bric-à-brac, on a ça. Des familles qui veulent énormément prendre en main, qui veulent pas laisser leur progéniture, qui ont peur de lâcher. Et donc il y a un travail aussi à la fois de les accompagner, les faire rentrer, en même temps de mise en distance, en disant vous devez vous transformer. Regardez là, on a d'autres modes de vie, d'autres règles. C'est de l'accompagnement réel des familles. C'est-à-dire que là, moi par exemple le matin, il y a une gamine que je vais prendre en bagnole. Et je ne la prends pas en bagnole par hasard. Ok, elle est sur mon chemin, peu près de trajet, mais c'est aussi pour aider la maman qui a des difficultés aussi de psychologiques à d'autres moments, qui est d'une générosité, d'une richesse qui est fantastique, mais qui a des moments où ça plonge, et la minote, elle se retrouve aussi à plonger aussi comme ça, et dire « Attends, moi je vais passer, je vais tenir ça. » Et non, allez, tu te lèves, on y va, on prend. Et bien c'est aussi un accompagnement social. C'est-à-dire, pour cette gamine qui était en grande difficulté, ça l'aide aussi à aller mieux. Ça l'aide aussi à se grandir. Et il n'y a pas, on va dire, ah oui, mais on ne peut pas faire ça avec tout le monde. Mais il n'y a pas à faire ça avec tout le monde. Puisque toutes les familles ne sont pas dans des situations aussi difficiles. Et c'est lié à chaque parcours. Et même pour avoir beaucoup bossé dans les ZEB de centre-ville, où il y a des situations économiques, sociales vraiment compliquées, il y a des familles qui ont une tenue, une prégnance, une dignité. Il n'y a pas besoin d'intervenir. Elles sont dans des merdes économiques et autres, sauf que ça tient socialement. Elles ont une belle prestance de auprès de leurs enfants. Il n'y a pas besoin d'intervenir auprès de ces familles-là. C'est bon, ça tient. Il faudrait les aider à vivre économiquement. Mais ça, c'est un autre projet. Je ne le fais pas à travers l'école, c'est d'autres luttes ailleurs. Quoi.
Là, on est en train de ranger la salle bric-à-brac. On range les livres et les coussins et les marionnettes.
Dans la partie sociale, on parlait des gamins, des familles qu'on accompagne. Et puis, il y a un autre aspect qu'on voulait mettre à travers les espaces éducatifs et sociaux. C'est aussi de dire qu'on peut aussi accueillir des adultes ou des jeunes. Notre implantation ici correspond à ce qu'on aurait, on l'a pas voulu, c'est le hasard, si on s'est implanté dans le lieu où on est, le hasard des rencontres, c'est d'autres familles, mais en fait ça correspond aussi à une implantation comme on pense qu'il faudrait avoir dans les écoles, c'est-à-dire avoir des écoles qui soient implantées au milieu d'une autre vie sociale, au lieu de fermer tous les murs, c'est-à-dire dans l'école il devrait pouvoir y avoir une autre association qui vit d'autres activités, que le boulanger qui est de l'autre côté de la rue, on puisse aller le voir sans que ce soit 10 papiers à faire pour demander l'autorisation de sortie, des choses comme ça. Et là, dans le brassage qu'il y a, on est du coup en contact avec des adultes qui sont dans des situations sociales plus ou moins stables et qu'on peut aussi nous accueillir. Il y a un personnage qu'on a accueilli depuis le début, qui est accueilli aussi par les autres associations autour. Et nous, on l'a accueilli parce qu'il est venu, il était intéressé par le travail avec les enfants, parce qu'il a un BAFA. Il est d'origine comorienne, il a ses papiers de séjour ici. Il aide, il a fait du bout de ménage. Et donc, il peut être là dans la journée à aider, à accompagner, à prendre des temps pour lui. Donc on lui a aménagé des lieux aussi dans l'espace où il a ses lieux de rangement, il a ses lieux à lui, et on le voit changer, quoi. Alors ça, c'est nous, notre part, mais sur le lieu où on vit, une autre association à côté l'aide, l'accompagne, etc. Ouais, ouais. Et on fait le lien avec l'assistante sociale qui va venir l'aider, etc.
Je travaille animateur jardin, et j'aide un peu les enfants qui vont au jardin, pour ramasser un peu les œufs, donner à manger aux poules, et en même temps changer un peu l'eau, se récupérer, à planter tout ce qui se passe au jardin. Et en ce moment, au début, j'étais bénévole pendant un bon moment, et après, en mars 2018, il m'a dit, ça sera bien quand on fait un petit contrat, et là, je suis en contrat, un travailleur avec eux.
On arrive presque cette année, je dis, à ce que représente réellement ce que j'aurais voulu comme depuis le départ du projet. C'est-à-dire qu'on est vraiment deux éducateurs enseignants.
Comme Erwan, Charles Jaillard est un ex-enseignant de l'éducation nationale. Il en est parti et étant à la recherche d'une expérimentation de pédagogie sociale, c'est sur le conseil d'anciens instituteurs qu'il est allé voir le fonctionnement de l'espace éducatif Bric-à-Brac. Et depuis, il y travaille en tant qu'éducateur enseignant.
Je pense qu'il y a quelque chose d'assez utopique quand on arrive, qui nous semble être quelque chose d'assez paisible, où les enfants sont plutôt à l'aise, où il y a beaucoup de temps de jeu, où ils ont l'air d'être capables de travailler tout seuls, dans une grande autonomie. Donc ça m'a séduit. Et puis en fait, plus j'ai passé de temps à bric-à-brac, plus je me suis rendu compte que derrière tout ça, il n'y avait pas qu'un lieu qui donnait des possibilités, parce qu'il y avait de l'espace, qu'il y avait moins d'enfants et qu'il y avait une certaine liberté au niveau, par exemple, de l'emploi du temps ou de la manière dont on conduit les apprentissages, mais qu'en fait, il y avait beaucoup de précision dans le travail et un suivi très fin, individuel, d'où en étaient les enfants et de leurs spécificités, aussi bien scolaires que psychologiques et sociales. Et là, très régulièrement, je me sens assez précis et je sais un peu pourquoi je suis en train de bosser, parce que je vois les fils qui se tendent et les conséquences de ce qu'on fait de manière plus ou moins long terme. Quoi. Il y a des choses qui changent assez vite. En l'espace de là, ça fait 6 mois qu'on a commencé cette année. On a des enfants qui ont déjà sacrément bougé. Quoi. Et ça, c'est assez beau à voir.
Il y a des gens qui n'ont pas tout fini. Moi, j'ai tout fini.
Moi aussi. Et après, il y a ménage. Et le ménage, ben...
Ce qui fait qu'on a vraiment la part d'enseignement qui peut venir toute la journée. Parce que ça, je l'ai pas trop redit, mais oui. Dans le projet de la partie école, la notion d'école, en fait, on voulait la supprimer. C'est pour ça qu'on parle pas d'école et qu'on voulait faire un temps qui soit un temps d'éducation toute la journée et qui soit pas un temps dit scolaire et un autre temps dit périscolaire et un autre temps dit extrascolaire, ouais, temps où on serait à l'école. Là, on est là pour apprendre. Maintenant, on est dans les temps de l'école, du centre de loisirs. Ah ben non, là, on n'apprend plus les maths parce que c'est le centre de loisirs. Donc là, on va faire du loisir. Ouais. Et ça, moi, ça me gonfle, en fait. Donc d'avoir tout sur le même lieu, sur toute la journée. C'est pour ça qu'on a ouvert 5 jours complets.
De
8h à 17h le soir. Et ce qui permet ce temps, l'augmentation du temps, permet davantage de fluidité. On a atteint ça cette année avec le collègue avec qui je suis là maintenant. Là, au bout de la 5e année, on arrive à cette stabilité-là. Par contre, la stabilité qu'on n'a pas, c'est la réalisation qu'on n'a pas, c'est au niveau économique. Et ça, on n'en sort pas, quoi. Pour faire un service public hors État, ouais. Eh ben, y a un problème de sous, tout simplement, quoi. C'est que pour payer les travailleurs, ben, faut aller chercher de l'argent ailleurs, quoi. Et ça, c'est compliqué parce qu'il faut trouver d'autres systèmes qu'on n'a pas trouvé encore, parce qu'ils demandent énormément de temps, quoi. C'est un double boulot.
C'est bien parce qu'après tes parents viennent te chercher, surtout que tu peux jouer et que cette fois t'as plus du tout le boulot dans l'après-midi, il peut arriver.
Même on peut même, on n'a pas le droit de te demander du boulot.
Ouais. Oui,
et bah, il
mais
va avoir le ménage.
Qu'est-ce qui fait réellement une différence par rapport à une école? Moi, je pense qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a eu des écoles, il y a peut-être encore maintenant, qui sont planquées quelque part, je sais pas où, oui, mais. Qui étaient des écoles du village, en multi-âge, je pense dans les années 70-80, il y en avait encore, à mon avis, qui étaient proches de ça. Avec peut-être une petite différence sur le fait qu'on ait de l'ancrage avec, dans l'ouverture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de porte. Qu'est-ce qui empêche réellement, dans l'éducation nationale, comme ça, de faire ce genre de choses, si ce n'est l'idéologie? On est dans quelque chose qui n'existe pas, en fait, d'un point de vue institutionnel au niveau de l'État. Il n'y a pas de ministère de la transversalité éducative, tu vois, ça n'existe pas. Ce qui pourrait changer, mais c'est ce que faisaient les enseignants davantage dans leur classe unique. Et ça, je l'ai senti, moi, dans des petits villages comme ça, pour être passé dans des petits villages. Mais du coup, il y avait ce contact-là, mais pas forcément dans une volonté d'accompagnement social à viser pour les enfants.
Ouais,
parce que moi, je suis pas dans une volonté de... Je sais que ça transforme des familles. J'ai vu le fait de travailler sur l'enfant en disant, écoutez, votre gamin, là, on va le rendre plus confiant, on va le transformer. Comme ça, on voit des familles aussi qui vont beaucoup mieux.
Oui,
tu veux, ça travaille, parce que c'est des familles qui sont inquiètes, ça crée de l'inquiétude, ça crée de l'inquiétude entre les couples, ça fait des couples qui s'engueulent, parce que le gamin, il va pas bien. Tu as un gamin qui va mieux, c'est déjà un couple qui s'apaise, donc c'est une famille qui s'apaise, mais ça fait c'est un cercle vicieux, si tu veux. Le gamin, il va mieux aussi parce que le couple s'apaise, enfin, où il y a des choses qui fonctionnent aussi comme ça. Mais travailler aussi sur aider une maman, un papa, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de discuter, prendre un café le matin avec lui, comment ça va, la galère, le boulot, c'est chiant, c'est machin, et prendre le temps d'écouter ça, de l'accompagner, lui dire voilà, mais pas juste faire semblant, d'être vraiment dans l'écoute et d'y revenir, pas juste une fois, de dire bon alors ça a avancé, ça, comment on peut aider, comment on peut faire ci. L'enfant il entend aussi. Et donc ça l'aide aussi lui à dire ok, il y a une histoire de confiance pour aller apprendre, il faut se sentir bien dans la peau. J'aimais bien les positions du, j'entendais des gens du lycée autogéré de Paris qui disaient on prend pas que des familles, notre objectif c'est pas de prendre des enfants de familles pauvres parce qu'ils seraient pauvres, c'est de prendre des enfants qui vont pas bien d'où qu'ils soient, c'est à dire que même des gamins qui viennent de familles très très riches, mais parce qu'il n'y a pas d'écoute, parce qu'il n'y a pas d'attention, parce que les parents sont pas disponibles, parce qu'il n'y a pas ceci, pas cela, alors un individu qui va pas bien, il n'y a pas de problème économique. Mais il fallait l'accompagner. Ça m'intéresse bien. Alors, il y a plus à faire politiquement avec, en plus, un système capitaliste qui forcément donne à une minorité un max de pognon et à la majorité moins. Évidemment, il y a plus à faire là-dessus, mais d'où de ne pas faire payer cher. Mais au fond, chaque individu, ce travail-là, quand tu t'intéresses aussi aux familles et que tu prends ce temps-là avec elles, ben, en fait, l'objectif, c'est l'enfant derrière. Je ne vais pas changer les adultes. Je peux accompagner, entendre, leur filer un petit coup de main de temps en temps, mais ce n'est pas mon... C'est pas mon... Moi, je renvoie aussi vers d'autres instances. Je peux vous conseiller ou aider, mais il y a d'autres personnes qui font ça mieux que moi. Je suis un peu... c'est pas mon job. Moi, mon job vraiment plus spécialisé, c'est vraiment le boulot auprès des enfants sur certaines techniques pédagogiques et la gestion du groupe, du collectif. Mais dans une école classique, il y a des directeurs et directrices, parce que c'est leur job, qui prennent vraiment ça comme job. Qui ouvrent davantage l'école, qui accueillent des familles. Mais ça veut dire que c'est quand même faisable. Après, tu peux modifier un peu le discours, l'accompagnement. Mais ça existe aussi.
Pour approfondir le thème évoqué et aussi pour aider concrètement les espaces éducatifs bric-à-brac, des informations sont disponibles en allant sur la page Dissonance du site de Radio Sainte-Afrique ainsi que sur le site dissonance.ovh.
Cette émission est rediffusée sur les antennes de Radio Sainte-Afrique. Vous pouvez la télécharger à votre guise en allant sur le site de Radio Sainte-Afrique, page Dissonance.
Et aussi sur celui de dissonance.ovh.
Capitaine sans épaulette, qui nous dépasse d'une tête, il joue du piano trompette, c'est Erwan et c'est très chouette. Naoula, c'est la tortue, la copine de Jasmine. Antonio aime les mots, et Lila lit des mangas, et Lila.
Salut
et fraternité.
Formidable, un voyage.
pas en manger. Lina ne veut pas en manger. Mohamed ne sait pas quoi faire avec sa chaille et en télo. Ils vont pêcher des pieds dans l'eau. Luna les appelle pour manger. Luna les appelle pour manger.